Montrons au Seigneur d'ouvrir sa parole devant nous. Il m'a mis à cœur quelques courts passages dans le début de l'évangile de Jean. J'aimerais m'arrêter avec mon secours sur les 8 témoignages rendus par Jean-Baptiste à la personne du Seigneur Jésus. Lisons le premier chapitre au commencement. Était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu, toutes choses furent faites par elle, et sans elle, pas une seule chose ne fut faite de ce qui a été fait. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas comprise. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Celui-ci vint pour rendre témoignage de la lumière, afin que tous crussent par lui. Lui n'était pas la lumière, mais pour rendre témoignage de la lumière. La vraie lumière est celle qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Il était dans le monde, et le monde fut fait par lui, et le monde ne l'a pas connu. Il vint chez soi, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom, lesquels sont nés non pas de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Premier témoignage rendu par Jean-Baptiste à la personne du Seigneur Jésus. Il est vie, il est lumière. Nous sommes bien aimés, on l'a dit souvent, devant l'Évangile qui nous présente d'emblée celui qui est la parole. Un cher frère nous disait il y a fort longtemps, quand vous ouvrez votre Bible, réalisez que vous avez devant vous Christ écrit. Et s'il y a un passage de l'Écriture qui appelle notre regard à s'arrêter sur la personne du Seigneur, c'est bien celui-là. Le disciple Jean penchait sa tête sur la poitrine de son sauveur. Il a acquis dans cette intimité un discernement particulier. Et c'est lui qui est employé de Dieu pour nous donner cet évangile si élevé. Nous entrons dans le sanctuaire. Nous sommes avec cet évangile devant les cieux ouverts, comme dans l'épître aux Hébreux. Et d'autre part, chers amis, nous sommes devant le céleste étranger, celui qui n'a pas été reçu. Mais ce témoignage alors de Jean-Baptiste concernant celui qui est la vie et la lumière doit nous arriver. C'est dans cet évangile que le Seigneur lui-même nous rappelle ces titres qu'il nous est arrivé quelquefois au cours des années de lire ensemble et de méditer. Ces titres du Seigneur, c'est lui qui, dans le chapitre 6e, nous dit ce soir encore, moi, je suis le pain vivant. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Dans le chapitre 8 de cet évangile et au verset 12, moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Dans le chapitre 10 de cet évangile, moi je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Sommes-nous tous sauvés, chers amis? Et dans ce chapitre 10 encore, moi je suis le bon berger. Le bon berger met sa vie pour les brebis. Il est dit dans ce chapitre qu'il donne la vie en abondance. Possédons-nous tous la vie éternelle, la vie de Christ lui-même. Avons-nous tous fait cette expérience heureuse de la vie de Christ en nous, par la foi au Fils de Dieu qui nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous. C'est important, ce mot vie qui revient si souvent dans cet évangile. Nous avons à nous souvenir de ce mot du chapitre 3 dans son verset 36, celui qui a le Fils à la vie. Celui qui désobéit, parce que ne pas croire, c'est désobéir. Dieu a dit, choisis la vie. Celui qui désobéit ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Il n'y a pas trois chemins, chers amis. Il y en a deux. Un qui porte les pas des bien-aimés, vers la maison du Père, et un autre qui porte les pas vers le jugement. Sur quel chemin portes-tu tes pas ce soir, ami qui que tu sois? Moi, je suis le bon berger qui met sa vie pour les brebis. Un cinquième titre du Seigneur dans cet évangile, c'est dans le chapitre 11e, moi je suis la résurrection et la vie. Et le Seigneur de rappeler ce qu'il est là, dans la maison de deuil. Chers amis, quand nous nous tenons devant la porte, devant le cercueil qui contient le corps d'un bien-aimé, d'une bien-aimée, oh, que nous puissions entendre par les oreilles de la foi ce mot du Seigneur, moi je suis la résurrection et la vie. Dans le chapitre 14e, un 6e titre, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Connaissons-nous celui qui est le chemin, c'est-à-dire le chemin qui me prend dans ma misère et qui m'amène par la foi et la repentance sur un terrain nouveau de vie, de résurrection, de relation avec Dieu. Il est la vérité. en face du mensonge, en face du menteur et du meurtrier qui cherche à nous distraire et à nous écarter du vrai chemin. Un jour, la vérité a été vue ici-bas, en marche, dans une personne, le Fils de Dieu, tel que cet évangile nous le présente. Il est la vie en face de la mort. Et enfin, dans le chapitre 15 et au verset 1er, ce septième titre du Seigneur, « Moi, je suis le vrai cep. » En contraste avec cet autre cep qu'est Israël et qui n'a donné que des raisins sauvages. Il y aurait plusieurs passages à rappeler en cela. J'avais simplement à cœur de toucher ces quelques titres du Seigneur en introduisant les quelques pensées qu'il me met à cœur ce soir. Mais nous sommes tous bien-aimés, arrêtés devant celui qui est la vie, devant celui qui nous prend, qui me prend dans la mort morale, dans le pays de l'ombre de la mort, pour reprendre l'expression d'Ésaïe. Celui qui me prend couvert d'abyssal et qui m'amène, je l'ai dit déjà, je le dis encore, sur ce terrain nouveau de vie, de résurrection, de relation avec Dieu. Avons-nous tous fait cette expérience heureuse? Connaissons-nous, chers jeunes amis, cette tête d'étape dans la vie? Le Fils de Dieu m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Et nous aimons à citer comme à nouveau ce verset de Jérémie 30, le verset 21, sauf erreur, où une question est posée. Qui est celui? Qui est celle qui engage son cœur pour venir à moi, dit l'Éternel? Y aurait-il parmi nous un cœur qui ne sera pas engagé? Un cœur qui n'ait pas été touché par la grâce de Dieu? Y aurait-il un regard qui ne se soit jamais arrêté sur celui qui a porté lui-même en son corps, sur le bois, nos péchés? Nous le disions hier soir, la minute qui vient ne nous appartient pas. Demain, c'est beaucoup trop loin. Oh, s'il y avait du doute dans un cœur ce soir, si quelqu'un ne peut pas dire « Jésus est mon sauveur », cher ami, cher ami, viens à lui tel que tu es, il ne repousse personne. Il nous aime tous ce soir, comme à l'heure où ses mains, ses pieds ont été percés à Golgotha. Premier témoignage de Jean-Baptiste, celui qui est la vie, la vraie lumière qui est venue dans le monde. Mais voilà, d'aucuns ne l'ont pas reçu. J'aimerais dire un mot de ce verbe recevoir. Nous avons lu tout à l'heure dans ce premier témoignage à tous ceux qui l'ont reçu. Il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu. Verset 12e. Savoir à ceux qui croient en son nom, lesquels sont nés non pas de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mais, Il y a ceux qui l'ont reçu. Il y a ceux qui ne l'ont pas reçu. Et vous savez, chers amis, ce qu'est écrit dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, au chapitre deuxième, après l'enlèvement de l'Église, enlèvement qui peut avoir cours ce soir, et quand je dis l'Église, au sens de la parole de Dieu, c'est l'ensemble de tous ceux qui connaissent Jésus, qui ont mis leur confiance en lui, qui savent ce que sont ces mots, salut, paix et pardon. Eh bien, ceux qui seront enlevés, selon 2 Thessaloniciens 2, sont compris sous ces mots, celui qui retient est ce qui retient. Mais nous avons un passage extrêmement sérieux, parce que après cet enlèvement, il est dit que Dieu envoie une énergie d'erreur sur les hommes pour qu'ils croient au mensonge. Et Dieu nous donne la raison de cette intervention en disant parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ou bien, j'ai reçu Jésus dans mon cœur, ou bien je porte mes pas vers le jugement. Ne m'en voulez pas, bien aimé, si j'insiste. C'est en sentant ma responsabilité devant vous, mais en sentant, réalisant ma responsabilité devant Dieu, il me sera demandé raison de l'occasion que j'ai ce soir-là de dire quelque chose de la part de Dieu. Quelqu'un serait-il étranger à la réception de l'amour de Dieu dans le cœur? Un deuxième témoignage de Jean-Baptiste, c'est ce que nous avons dans la suite. Verset 14, « La parole de mon cher habita au milieu de nous. Nous vîmes sa gloire, une gloire comme d'un Fils unique de la part du Père, pleine de grâce et de vérité. » Jean rend témoignage de lui et a crié, disant, « C'était celui duquel je disais, celui qui vient après moi prend place avant moi, car il était avant moi. Car de sa plénitude, nous tous, nous avons reçu et grâce sur grâce. » Un deuxième témoignage est donc rendu par Jean-Baptiste à la grandeur et à la majesté de celui qui vient. Nous sommes-nous arrêtés, chers amis, devant cette grandeur, devant cette majesté, devant les attributs glorieux et de celui qui est notre Sauveur, qui est notre Seigneur, celui qui s'est acquis tous les droits sur nos cœurs, celui qui vient après moi prend place avant moi, il était avant moi, de sa plénitude nous tous, nous avons reçu et grâce sur grâce. Témoignage qui est rendu à la parole qui est faite chair. Et dans la suite de ces versets, le troisième témoignage à sa grandeur et à sa majesté. Il faut s'arrêter devant une telle personne. La parole égrène devant nous, dans l'Ancien Testament déjà, quelque chose des gloires du Seigneur. La parole nous rappelle la place qu'il occupait dans l'éternité. Les amis qui ont lu Proverbe 8 se sont arrêtés devant les profondeurs de l'éternité. Le Père aime le Fils. Le Fils aime le Père. Cette délice était avec les fils de l'homme. Nous avons reçu des grâces sur grâce. Il faudrait longtemps pour méditer ce passage. Sur ce témoignage de Jean-Baptiste à la parole faite chair, et je le répète dans les versets qui suivent, sur sa grandeur et sa majesté. Nous arrive-t-il de méditer pour nous-mêmes, dans le particulier, dans le secret de nos cœurs, quelque chose des gloires du Seigneur? C'est tellement important pour vivre un christianisme normal, pour avoir quelque chose à dire à notre Dieu et Père le dimanche matin, quand il nous rassemble devant lui pour l'adoration et pour le souvenir de ce qui s'est passé à Golgotha, le souvenir de cette mort accomplie à Jérusalem. Quand il nous rassemble pour nous rappeler à la fois ce qu'est cette grandeur, ce que sont les attributs glorieux du Fils éternel, centre de l'amour paternel, mais en même temps, devant ce suprême abaissement, devant cette crèche à Bethléem, devant cette croix à Golgotha, devant ce tombeau vide. Trois témoignages dans le début de ce premier chapitre de Jean, dans les versets premiers jusqu'au 28. Je n'ai pas lu les versets 19 à 28, mais c'est donc ce témoignage de Jean sur la grandeur et la majesté du Seigneur. Et il y en a un quatrième, dans les versets 29 à 31. Il voit Jésus venant à lui et il dit, « Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est de celui-ci que moi je disais, après moi vient un homme qui prend place avant moi. Il était avant moi et pour moi je ne le connaissais pas. Mais afin qu'il fût manifesté à Israël, à cause de cela, il est venu baptiser d'eau. » Ici, le témoignage rendu à l'agneau de Dieu et à son œuvre rédemptrice. Notre christianisme sera vérité et sincérité, frères et sœurs, dans la mesure où souvent nous nous arrêtons devant l'agneau de Dieu et au rappel de son œuvre rédemptrice. Le danger de notre temps, il faut le dire, c'est de nous habituer aux choses. Habituer à voir sur la table les signes qui rappellent Golgotha. Nous habituer peut-être à chanter des hymnes et des cantiques qui soulignent sa souffrance, sa mort. Mais le Seigneur désire que dans nos cœurs, il se passe quelque chose. Que dans notre cœur, il y ait quelque chose de profond, de vrai,
et de sentir, de réaliser pour lui. Quel rappel que les signes sur la table du Seigneur, quel rappel que les paroles mêmes du Seigneur, ceci est mon corps qui est donné pour toi, ceci est mon sang qui a coulé pour toi. À cause de cette mort, tu as la vie. J'ai connu pour toi la douleur suprême, douleur du Rédempteur. N'est pas à l'aventure que nous chantons quelquefois, il est grand et magnifique, louons le Seigneur. Qu'il y avait dans nos cœurs la reconnaissance qui doit y être et l'adoration qui est due à notre Dieu et à celui qui nous aime et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang. Mais il y aurait un témoignage vibrant dans les assemblées. Comment est-ce que je vis cela dans ma famille? Et qu'est-ce que cela produit dans la vie de l'assemblée quand toutes les familles sont là? Nous rejoignons ce passage d'Éphésiens 5 dans son verset 2. Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous. Dans le particulier, Christ m'a aimé, s'est livré lui-même pour moi. Mais quand nous sommes rassemblés, c'est une multiplication, chers amis. Combien nous devons être heureux et reconnaissants et des adorateurs convaincus. Christ nous a aimés. Et dans ce même chapitre d'Éphésiens 5, Christ a aimé l'assemblée. Il s'est livré lui-même pour elle. Et le mot lui-même revient dans les trois passages. Il y a un cinquième témoignage rendu par Jean-Baptiste, c'est au verset 32. Rendu à la plénitude de l'Esprit, Jean dit, j'ai vu l'Esprit descendant du ciel comme une colombe. Il demeura sur lui, et pour moi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptisé d'eau, celui-là me dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer sur lui, c'est celui-là qui baptise de l'Esprit Saint. Plénitude de l'Esprit et baptise et l'Esprit descendu comme une colombe. C'est l'homme parfait. Sur les disciples, à la Pentecôte, l'Esprit descendra comme des langues de feu. C'est différent, mais sur le Seigneur, comme une colombe. Et dans le passage qui est devant nous, à la fin du verset 34, un sixième témoignage, j'ai rendu témoignage que celui-ci est le Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu. N'allons jamais, bien aimés, rabaisser, permettez l'expression, la personne de Christ. C'est le Fils de Dieu. C'est celui qui aura le dernier mot devant le grand trône blanc. Toute bouche sera fermée. C'est celui qui s'appelle la parole, selon Apocalypse 19, et selon notre passage de Jean 1.
c'est le Fils éternel, c'est lui qui tient le fil de ma vie, celui qui tient notre souffle, chers amis, il vaut la peine de s'arrêter devant lui. Il vaut la peine de prendre une heure pour être autour de lui, devant sa parole. C'est le Fils de Dieu. Et dans le témoignage qui suit, c'est un témoignage rendu à la marche de l'agneau de Dieu. Remarquons cela. Le lendemain encore, Jean se tint là, et deux de ses disciples, et regardant Jésus qui marchait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Et les deux disciples l'entendirent parler, ils suivirent Jésus. Et au verset 40, à la fin, ils demeurèrent auprès de lui. Ce jour-là, c'était environ la 10e heure. L'agneau de Dieu, dans sa marche et dans son œuvre. La marche du Seigneur. Celui qui s'est toujours proposé l'éternel devant lui, sa viande étant de faire la volonté de Dieu. Et que lisons-nous, bien-aimés, à la vue de cette marche, de ce témoignage de Jean-Baptiste, que lisons-nous? Nous sommes-nous arrêtés devant les verbes qui sont employés ici? Regardant Jésus qui marchait, un premier verbe. Un deuxième, ils l'entendirent parler. Un troisième, ils suivirent Jésus. Un quatrième, ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. Que de fois le Seigneur nous a appelés à porter notre regard sur lui. Que de fois nous l'avons entendu par la parole. Que de fois nous avons été exhortés par nos bien-aimés frères à nous arrêter devant le Seigneur, devant sa parole. Les disciples regardent, les disciples entendent. Et que font-ils? Ils suivirent Jésus. Oh, chers amis, il faudrait des réunions pour s'arrêter sur tous les passages de la Bible où il est question de suivre Jésus. Mais il en est un particulier que j'aimerais citer ici. C'est celui de Nombre 32. Dans son verset 12, sauf erreur, où un témoignage est rendu à deux hommes, il est dit d'eux qu'ils ont pleinement suivi l'Éternel. Je veux dire le passage pour ne pas lui enlever son sens profond. Nous lisons déjà au verset 10 de Nombre 32. Et la colère de l'Éternel s'en rasa en ce jour-là, et il jura, disant, si les hommes qui sont montés d'Égypte depuis l'âge de 20 ans et au-dessus voient la terre que j'ai promise par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob, car ils ne m'ont pas pleinement suivi. Et voilà le verset 12 que j'avais à cœur de citer. Excepté Caleb, fils de Jephunné le Kénizien, et Josué, fils de Nun, car ils ont pleinement suivi l'Éternel. Quel est notre désir ce soir, bien-aimés? Pouvons-nous dire devant le Seigneur que notre désir est de l'aimer? et de le suivre en l'attendant du ciel. Deux hommes de l'Ancien Testament qui n'avaient pas la Bible comme nous l'avons ce soir dans nos mains, ils ont pleinement suivi l'Éternel. Heureux celui qui n'aspire qu'à suivre en paix le Seigneur, chantons-nous quelquefois. Il suivit Jésus. Il y a là comme une pierre de touche. Il y a là comme le doigt de Dieu qui vient se poser sur moi-même, sur chacun de nous. Est-ce que ton désir, ami, ami, est bien arrêté dans le cœur, désir de suivre Jésus? Et il demeurait auprès de lui. Le Seigneur, dans Jean 15, déjà cité tout à l'heure, peut dire au verset 4, « Demeurez en moi ». Ne devons-nous pas confesser que souvent, il y a des choses qui sont comme accidentelles en nous. Nous jouissons de lui, nous l'aimons parce que lui nous a aimés le premier. Il y a des moments dans la vie où il y a un contact, une communion avec lui, mais il y a d'autres moments. Nous rappelions un de ces soirs passés ce mot du roi Ézéchias à son peuple, où il a ce mot si touchant maintenant, mes fils. Ne soyez pas négligents, car c'est vous que l'Éternel a choisi pour le servir, pour être ses serviteurs, et ceux qui lui offrent ce qui se brûle sur l'autel, maintenant, mes fils. Eh bien, chers amis, devant ce témoignage de Jean-Baptiste, en regard de la marque de l'agneau de Dieu et de son œuvre, puissions-nous regarder, puissions-nous entendre, puissions-nous suivre et demeurer près de lui, avec lui. Près de moi, disait David le jeune Abiathar, tu seras bien gardé. Et ce mot du Deutéronome que nous aimons à rappeler aussi dans le 14 de cette erreur, la parole est très près de toi. La parole est très près de toi. Ils regardent, ils entendent, ils suivent, ils demeurent. Il y a un dernier témoignage de Jean-Baptiste d'Arela. C'est au chapitre 3e de cet évangile. Nous lisons au verset 28. Vous-même, vous me rendez témoignage que j'ai dit, ce n'est pas moi qui suis le Christ, mais je suis envoyé devant lui, celui qui a l'épouse, et l'époux, mais l'ami de l'époux qui assiste et l'entend, il vous réjouit à cause de la voix de l'époux. Cette joie donc qui est la mienne est accomplie. Il faut que lui croisse et que moi je diminue. Ce dernier témoignage rendu à l'époux à qui tout appartient. N'est-ce pas remarquable? Jean-Baptiste, celui qui, à la fin, peut dire en acte 13 qu'il n'est pas digne de démêler la sandale du Seigneur. Celui qui, dans le début de l'évangile de Marc,
à même ce mot, je crois que c'est dans le premier chapitre. Il n'est pas digne en ce vaisseau de délier la sandale du Seigneur, celui à qui tout appartient. Oh, chers amis, réussissons-nous au rappel de ces passages, méditez bien faiblement, puissions-nous regarder, entendre, suivre et demeurer, et que le Seigneur soit vraiment cher à nos cœurs, et que l'assemblée pour laquelle il s'est livré lui-même soit chère à nos cœurs. J'étais jeune, j'étais peut-être une fois un peu découragé, et voilà la visite d'un cher frère qui nous médite Apocalypse 21 dans ses versets 9 et 10 en particulier, et il nous parle de l'assemblée. C'est là que l'ange dit à Jean de monter sur une grande et haute montagne pour voir l'épouse, la femme de l'agneau. Et ce frère médite sur ces deux versets. Il nous dit, vous savez, si je regarde l'assemblée au travers de ceux qui sont là, si je vois l'assemblée au travers de mon pauvre cœur, le mien, je suis déçu. Je suis peut-être découragé, mais si j'achète la lunette divine et que je vois l'assemblée depuis le haut de la montagne, l'épouse, celle qui a une relation éternelle avec lui, la femme de l'agneau, celle qui est le fruit de ses souffrances, je suis encouragé. Chers jeunes amis, attachés au Seigneur qui a donné sa vie pour vous, pour moi, pour nous, montons sur la montagne et voyons l'assemblée, fruit du travail de son âme, avec la lunette divine, et prenons nos privilèges et nos responsabilités sans attendre les années dans le cadre de cette assemblée qu'il nourrit, qu'il fait, qu'il va se présenter ce soir peut-être selon le passage que vous savez.